bienvenue dans ce 10e épisode du podcast Et si j'étais libre. Moi c'est Harmonie Albertini et c'est le 10e épisode. Enfin, je suis choquée parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai lancé ce podcast fin 2021. Je me suis repris début 2023, hein, parce que j'avais fait que deux épisodes, un en 2021 et un en 2022. Excusez-moi, je tourne la tête parce qu'en même temps je regarde par la fenêtre, il neige depuis quelques minutes, nous sommes le 27 février dans le sud de la France, rien ne va. Donc je ne suis pas très bien à l'idée de voir cette neige, hein, voilà, sachant que j'ai beaucoup de choses à faire sur la route. Normalement il fait pas assez froid pour que ça tienne, mais peu importe, ce n'est pas agréable pour moi, je suis phobique de la neige. Quand je dis phobique, c'est pas une vraie phobie, mais... Je déteste tout ce qui concerne le froid. Un jour, je partirai vivre dans un pays tropical car je suis vraiment allergique au froid. Soit. Donc, 10e épisode, ce qui signifie que vraiment, j'arrive à garder ce rythme tous les lundis. Donc là, on est vraiment lundi, il est 8h du matin. C'est censé sortir le matin à 8h, mais je m'y tiens jamais parce que hier, j'ai pas eu la foi de faire les podcasts et j'aime bien les faire le matin. Donc ça arrivera plutôt le lundi dans la journée. Voilà, je donne pas d'horaire comme ça. Je peux me laisser une partie un peu plus laxiste, hein, de mon œuvre. Et donc aujourd'hui, alors là, gros sujet, en fait, c'est vrai que comme c'est les premiers podcasts, on va avoir des sujets beaucoup plus larges et peut-être un peu plus restreints avec le temps, mais aujourd'hui, s'il y a bien une chose dont on me parle tous les jours, enfin tous les sujets à chaque fois, c'est des sujets dont on me parle tous les jours, mais là vraiment, très précisément, et je me rends compte avec tous les contenus que je partage ces derniers temps, pardon, c'est vraiment... la peur du jugement de l'autre, la peur du regard de l'autre. Donc, ce podcast aujourd'hui, c'est « Et si j'étais libre de la peur du jugement de l'autre ?» Alors, en effet, là, c'est un gros bout sur lequel je m'attaque, parce que au final, c'est vraiment ce qui ressort beaucoup, beaucoup dans... La problématique, j'ai envie de dire, presque de l'humanité, parce que y a beaucoup de gens qui sont finalement totalement tributaires, totalement dépendants de cette peur, et cette peur qui t'empêche de vivre, en fait, de réaliser énormément de choses. Donc, la seule chose, c'est que comme l'humain est un animal social, c'est un primate, donc il vit en communauté, en société, bah, on a besoin les uns des autres. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a peur en vivant les uns avec les autres? Bah, on a peur... de ce que l'autre pourrait nous renvoyer comme image que l'on a d'abord de soi, le fait qu'on a peur d'être rejeté, on a peur d'être seul, donc toutes ces peurs, nous, du coup, parfois, nous empêchent de vivre nos désirs profonds, dire ce qu'on pense, avoir une attitude qui nous est propre, spontanée, parce que par rapport à plein de choses qu'on va évoquer, bah, on est totalement... on se soustrait nous-mêmes de cette liberté. Donc ce podcast, il a pour but en effet de montrer un peu dans ma réflexion, dans ma vision, encore une fois, tu prends ce que t'as envie de prendre, tu jettes ce que t'as envie de jeter. Je ne suis pas le messie, je n'ai pas la vérité ultime, c'est juste mon regard, mon expérience, etc. Mais le but de ce podcast, c'est vraiment d'aller regarder tous ces freins qu'on se met, et aussi, bah, en fait, et si je suis libre, qu'est-ce que ça fait une fois que je suis libre, en fait, et, qu'est-ce qui se passe une fois qu'en fait je m'ôte de tout ça? Et finalement, est-ce que ma peur crée un réel danger? Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que cette peur du jugement de l'autre, la première chose qu'il faut se dire, c'est que c'est la peur du jugement qu'on a de nous-mêmes. Ok? Donc, il va y avoir plusieurs choses qui vont alimenter cette peur. Déjà, la première chose, c'est évidemment notre éducation, notre culture. Donc quand on est dans une éducation, ça c'est propre à un foyer et ou une culture, mais bah, y a des choses qui se font, des choses qui se font pas, des choses morales, des choses pas morales, des choses bien, des choses mal, voilà. Tous les parents ont éducation, toutes les familles ont éducation, et même si tu n'as pas grandi dans un foyer classique, t'as grandi de famille d'éducation, ou en foyer ou peu importe, tu as quand même à un moment donné eu un fil conducteur d'éducation, qui peut-être, hein, évidemment, d'une certaine manière, t'a conditionné sur certaines choses. Évidemment, il y en a pour qui eh ben, le fait de ne pas avoir de cadre d'éducation est aussi peut-être quelque chose qui leur permet de ne pas connaître certaines limites, hein, ça peut aller dans l'autre sens, et finalement peut-être avoir un besoin de reconnaissance et de faire beaucoup de choses pour avoir de la reconnaissance du regard de l'autre, mais hyper important cette histoire de reconnaissance du regard de l'autre, à partir du moment où nous naissons dans une société, nous naissons en communauté, nous sommes de toute manière tributaires du conditionnement sociétal, qu'il soit familial, culturel, religieux, ou justement qu'il y ait une absence de cadre, parce que en fait, bah, c'est comme ça. En fait, on va avoir des croyances, qu'elles soient limitantes ou qu'elles soient beaucoup plus ouvertes et libératrices, mais on va être conditionné. Et donc, ce conditionnement, bah, il va avoir plus ou moins des conséquences à partir du moment où on n'est pas conscient qu'on peut s'en affranchir. Parce que, évidemment, un enfant, il ne peut pas s'affranchir de l'éducation des parents, même s'il se rebelle, ce que j'essayais de faire moi sur certaines choses où j'étais pas en accord avec mes parents et que je ne suis toujours pas aujourd'hui, et qu'aujourd'hui c'est plus facile parce que je vais avoir 33 ans, je vais avoir 33 ans cette année, oui, 33, je vais avoir 33 ans, je veux dire, il y a pas mal de choses aujourd'hui dont je m'affranchis, mais bah, étant enfant, bah, tu veux plaire hein, finalement à tes parents, tu veux d'une certaine manière aussi avoir la paix et rester, comment dire, dans la reconnaissance de l'autre, parce qu'on a besoin en tant qu'enfant pour grandir dans l'amour et la sécurité, on a un besoin de reconnaissance. Il est normal, il est naturel. Et puis bah, à l'âge adulte, quand ce besoin de reconnaissance est beaucoup trop fort, c'est que justement il y a un déséquilibre et n'a pas été comblé dans l'enfance qui doit être comblé. Bon, là je vous fais de la thérapie de comptoir, évidemment. Mais en définitive, c'est ça. Donc en fait, une fois qu'on est conditionné, ben, c'est à nous, en fait, une fois en tant qu'adulte, même conditionnement ne veut pas forcément dire chose horrible parce qu'on a des conditionnements. Qui peut-être, avec qui peut-être on deal super bien. Par exemple, ne pas tuer son prochain, c'est un bon conditionnement, tu vois. Par exemple. Tuer quelqu'un, c'est pas bien, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Un conditionnement, ça va pas forcément dire forcément des barrières hyper sévères sur tout. Il y a des choses qui sont un peu logiques, qui s'appellent la morale, qui s'appellent en fait l'atteinte à autrui, à la liberté d'autrui, à la vie d'autrui. Et ça, évidemment, ça fait partie de nos conditionnements sociétaux. Et encore heureux qu'ils existent, hein. Ça nous permet de vivre en communauté et en paix au maximum. Les conditionnements sont plus insinueux, c'est-à-dire qu'il va y avoir les conditionnements aussi en tant que femme qu'on va avoir sur le comportement qu'on doit avoir, la tenue qu'on doit porter. Le fait de devoir être gentil parce que c'est ce qu'on nous demande d'être en tant que petite fille, d'être sage, même les enfants. J'en parlais avec mon amie Agathe la dernière fois. Il disait, mais on dit toujours aux enfants, t'as été sage. En fait, il y a toujours cette condition qu'on impose aux enfants d'avoir un certain comportement et on ne laisse pas en fait la liberté, la fougue à nos êtres dès l'enfance à s'exprimer. Et il y a plein de choses comme ça dont on est conditionné qui font qu'on a peur du regard de l'autre. Par exemple, moi, j'ai été conditionnée au fait de devoir plaire aux autres physiquement, de devoir être toujours au régime, de devoir être sage, bonne à l'école. Je comprenais rien à l'école. Mais quand je vous dis je comprenais rien, les gars, maintenant avec le recul, hein, je comprenais rien, mais j'étais première de ma classe. Parce que j'apprenais par cœur pour qu'on m'aime. C'est fou de se dire ça à l'âge de 33 ans. J'ai réalisé ça seulement il n'y a pas longtemps, là. C'est récent, je me suis dit, mais en fait, quand j'étais petite, je comprenais rien. Parce que plus les années ont passé et plus il fallait être logique à l'école, et moins je l'étais. D'ailleurs, j'ai pas été dans les études. J'ai eu mon bac avec 10 sur 20 parce que je suis venue en touriste et que la veille du bac de l'épreuve de littérature, parce que j'étais en bac L, pour ceux qui ont connu les bacs, parce que maintenant apparemment ça n'existe plus, c'est bac général pour tout le monde, avec des spécialités, je crois. Bref, bac littéraire, et bah la veille de l'épreuve de littérature. J'étais tombée sur. C'était quoi? C'était la figure maternelle dans les contes de Perrault. Et j'étais persuadée qu'on allait tomber sur les contes de Perrault. Bref, j'ai eu 14 sur 20. Mais c'est vraiment parce que la veille, il y avait deux pages qui étaient collées. Je les ai décollées. J'ai vu ça. Et voilà. Et c'est un coup de chance. Et je pense que j'ai eu mon bac grâce à ça. Sinon, je serais passée au rattrapage, c'est sûr. Bref. Pour vous dire que voilà, mon objectif, moi, c'était pas de faire des études parce que ça me gonfle. Et franchement, aujourd'hui, il y a plein de fois où je veux faire des formations. Et en fait, je suis allergique à l'apprentissage et du mal à rester concentrée. Ça va peut-être venir. Parce que je travaille sur ma concentration, j'essaie de trouver des solutions. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que le besoin de reconnaissance est capable de faire des choses parfois qui sont à l'encontre finalement de notre nature. Bon, en tant qu'enfant, c'est comme ça, je ne me rendais pas compte, hein, évidemment. Mais en tant qu'adulte aujourd'hui, je peux justement me libérer de cette peur en fait de ne pas plaire, cette peur d'être de reconnaissance. Donc ça peut être vraiment, là je vous ai brassé, je vais parler d'esthétique, je peux vous parler de comportement, je peux vous parler de plein de choses, mais vous avez forcément à un moment donné des choses dont vous êtes conditionné, vous savez que vous n'arrivez pas à en sortir. Alors, on va pas rentrer dans la partie religion, parce que là, du coup, il faudrait faire un podcast là-dessus, et moi, personnellement, je n'ai pas une éducation religieuse, même si moi, j'ai des convictions religieuses, que je garde bien pour moi, parce qu'elles ne regardent que moi, et j'essaye toujours. Sachant que je suis très très ouverte hein, quand je dis religieuse, je ne pratique pas une religion particulière, mais voilà, je n'impose rien dans mes partages en dev perso, parce que ce sont deux choses non pas séparées et distinctes, mais voilà, il n'y a pas d'imposition à avoir au niveau religieux. Même si, voilà, moi, je ne pratique aucune religion particulière, même si j'ai des convictions, mais peu importe. Mon attitude, pour moi, doit être la plus alignée possible, et c'est ce qui compte. Et ce que je veux dire par là, c'est que on rentre pas sur ce chapitre-là. Par contre, tout le reste, finalement, c'est un peu ricoché, parce que soit religieux ou éducatif, il y a des fois des choses qui ne se discutent pas, parce que c'est comme ça. Et du fait que ce soit comme ça, parfois, ça peut emprisonner certaines personnes. C'est-à-dire, même dans un cadre religieux ou éducatif, culturel, il y a des choses qui sont ce qu'on appelle de l'héritage. Donc, on appelle ça aussi un héritage culturel et, quoi qu'il arrive, aussi un héritage transgénérationnel, puisque l'héritage culturel est un héritage transgénérationnel, c'est-à-dire qui passe de génération en génération, et que cet héritage, en fait, nous met dans une position où, sans même qu'on ait pu discuter, qu'on ait pu réfléchir, qu'on ait pu savoir est-ce que ça résonne avec nous, ben, on reproduit en fait cet héritage, on le met en pratique aussi dans nos vies et ou avec nos enfants. Et pourtant, parfois, on n'est pas du tout aligné, et parfois, oui, et c'est ok si on est aligné, si ça nous rend heureux. Et puis, des fois, c'est nos enfants qui nous font nous rendre compte que, ben, en fait, peut-être que ça, c'est pas obligatoire, peut-être que cet héritage-là. Bah nous, pour nous, c'est obligatoire, c'est comme ça, il n'y a pas de choix, ça ne se discute pas, c'est comme ça s'est passé comme ça dans mon enfance, mes parents ont vécu pareil, mes grands pareils, donc tu dois le vivre, tu dois le faire, tu dois le ressentir, tu dois le penser, etc. Et des fois, nos enfants, je dis nos, moi j'en ai pas, mais nos enfants, notre génération nous fait nous rendre compte qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter. Comme c'est le cas, par exemple, dans ma génération, nous, on est dans une génération, déjà ma mère est un peu précurseur, j'arrive pas à dire, précurseur. On va pas, je vais pas le féminiser, j'arrive pas. Était déjà précurseur dans le travail sur soi, justement, le côté thérapeutique, travailler sur les blessures de l'âme, etc. Parce que ma mère est thérapeute et accompagnante en relation d'aide dans les 5 blessures de l'âme. Pourtant, elle aussi a toujours, comme tous les êtres humains, des conditionnements et des choses dont elle doit se séparer, hein. On peut très bien être thérapeute et avoir toujours besoin de travailler sur soi. D'ailleurs, moi je dis, moi je suis toujours accompagnée, c'est parce que je suis coach, que je ne dois pas être coachée, que je ne dois pas travailler sur moi. Ça, c'est une hérésie, hein. On a tous besoin d'évoluer, surtout des fois à des périodes de nos vies. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais bref, donc du coup, même si moi, enfin notre génération, nous, là, les générations 90-2000, on est quand même beaucoup plus appelés à travailler sur nous, à essayer de voir bah, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. Peut-être qu'en fait, je veux pas d'enfant, peut-être qu'en fait, je veux telle vie, peut-être qu'en fait, bah, célibataire, c'est pas la fin du monde. Enfin bref, on casse tout cet héritage qui est bah, si tu veux être heureux, il faut vivre comme ça. Et donc, du coup, d'une certaine manière, bah, nous, on casse cette peur du jugement de l'autre. Parce que aussi, en cassant cette peur du jugement de l'autre en communauté, à plusieurs, en génération, bah, ça nous permet aussi de nous affranchir et de nous dire bah, en fait, je peux avoir un peu plus de liberté sur mes propres choix. Mais c'est pas si simple que ça. Moi, forcément, je parle de mon prisme. On a toujours une vision assez restreinte, finalement, des choses. Parce que, comme moi, je vis dans une réalité, je vis un peu dans un monde, dans une bulle, et j'ai l'impression que c'est hyper courant, en fait, cette façon de faire et de penser. Mais en fait, pas forcément. Tout le monde n'a pas cette prise de conscience qu'il faille casser peut-être certains conditionnements, certains héritages pour justement s'affranchir et être plus libre. Donc, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait que il y a beaucoup de gens, je le vois en fait une fois que je discute avec des gens qui vivent dans des prisons. À la prison mentale, on y revient, j'avais fait une vidéo sur le sujet, dans des prisons mentales, que ce soit, c'est toujours un héritage quoi qu'il arrive, avec cette peur de l'autre. Et on va y venir sur toutes les formes de peur du jugement de l'autre, voire des peurs même de l'autre, hein, tout simplement, et les différentes catégories pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc déjà, premièrement, il y a ça, hein, il y a cette culture, ce conditionnement qui nous emprisonne. Et en fait, ben, c'est un peu le fardeau de l'humanité, si je puis dire. Et c'est aussi pour ça on voit à l'histoire aussi. Dans l'histoire de l'humanité, des groupes qui se sont suivis par peur d'être rejetés par l'autre, suivre le mouvement, et on le voit. Il y avait des expériences comme ça hyper intéressantes où des gens étaient en salle d'attente et que dès qu'il y avait un bip, ils se levaient, ils se rassasiaient, donc c'était des comédiens, et rentraient dans une salle un vrai patient. Et en fait, à force de le faire, et bah, on se rendait compte que la plupart des gens finissaient par imiter ça. c'était hyper étrange et tout, mais il finissait par l'imiter parce qu'il se disait bah, qu'il fallait le faire. Et combien de fois, moi aussi, je suis rentrée dans une pièce, par exemple, et que j'étais pas forcément d'accord, je sais pas, sur une attitude ou sur un truc, je sais pas, par exemple, ouais, j'ai peut-être pas donné cet exemple-là parce que je m'attirais les foudres. Mais bref, il y a des choses qui me faisaient chier, par exemple, et pour autant, bah, parce que je me disais, bah, je peux pas me rebeller. J'ai peur en fait d'être jugée, j'ai peur de faire des vagues, de me faire remarquer, ce qui n'est pas anormal en soi. Hein. C'est ok, on veut la paix. Bah, je vais imiter le comportement des autres, mais je suis pas vraiment d'accord avec. Vous voyez? Donc ça, c'est la peur du rejet de l'autre et s'en affranchir. En effet, c'est compliqué dans certains cas de figure. Donc qu'est-ce que ça fait? Donc ça, c'est une première chose. En fait, j'essaie de catégoriser mes propos MDR parce que moi, j'ai une pensée en arborescence. Hein. Vous connaissez les hypersensibles, vous connaissez bien cette façon de faire. Donc il y a cette première chose. Et puis la deuxième chose, on va caler ça en deux grandes catégories, et après on va voir le cas de figure, c'est en fait la peur finalement de la projection de sa propre pensée dans le regard de l'autre. Exemple le plus courant, je me trouve grosse, je me trouve moche, je me trouve dégueu, j'en sais rien, j'aime pas mes cernes, bref, peu importe. Je m'empêche de m'habiller comme j'ai envie, aller à la salle de sport, mettre une, voilà, dire ce que je pense à voix haute parce que j'ai peur qu'on me regarde, y mettre un avis, etc., parce que j'ai peur que l'autre voit ce que moi je déteste chez moi. Et donc me renvoie à ma propre détestation. Donc ça, c'est hyper important, c'est que c'est dans tous les cas, quoi qu'il arrive, la peur d'être rejeté, mais c'est par rapport à son soi, à son juge intérieur. C'est-à-dire que tu as peur que ton juge intérieur devienne un juge extérieur. Et malheureusement, alors, je ne vais pas te dire que ça arrive dans tous les cas de figure, mais en fait, plus on pense à quelque chose, on met le focus dessus, et je vous jure que plus en fait ça se voit. Quelqu'un qui est mal à l'aise par sa propre existence, il va renvoyer une énergie de malaise. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, la personne en face va sentir cette énergie, même si elle ne voit pas d'où ça vient, et peut-être qu'elle va mettre le doigt sur le malaise. Il faut savoir qu'on a des... J'en parle pas mal de fois dans mes podcasts, on a quand même une grande énergie vibratoire, et ce qu'on dégage vraiment influe sur les autres. Moi, je le vois, j'ai des comportements parfois qui sont divergents, et je vois que ça change l'énergie d'une pièce. J'en ai déjà parlé plein de fois dans les podcasts. Et je sais que j'ai un grand rôle parce que j'ai une très forte, ce qu'on appelle aura, une très forte énergie. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est quelque chose que toutes les personnes que je suis en énergétique, ou même les gens me disent en général. Donc je sais que mon énergie va vraiment influencer une pièce, un ensemble, un groupe. Donc je fais vraiment attention à ça, même si je ne suis pas maître de toutes les énergies. Même si je ne peux pas basculer une énergie toute seule, je sais que j'ai une grande influence. Et j'ai une grande responsabilité par rapport à ça. Maintenant, je l'accepte et je l'entends. Et du coup, il y a plein de choses, des événements maintenant aussi dans lesquels je vais faire attention à ça. Bref, et tout ça pour dire que quand on ressent un mal-être profond, ça se ressent. Il suffit que vous tombiez sur une personne qui elle-même, finalement, vit un mal-être, a besoin de mettre le doigt sur plus faible que lui ou elle pour ne pas se sentir seul, voire même à récupérer un sentiment de supériorité en disant « Est-ce que beaucoup de gens font des fois sans s'en rendre compte ?»« Ah, en fait, elle est plus mal que moi, lui, il est plus mal que moi, donc ça veut dire que je suis pas si mal. » Je vais mettre le doigt dessus pour me faire monter, moi, en fait, pour me donner l'impression que je suis supérieure, qu'en fait, je suis moins mal. Après, on a tous ce truc-là de voyeuriste. Hein. Il y avait, justement, quand j'étudiais en littérature, les pièces de théâtre, il disait que, si je dis pas de conneries, franchement, moi je suis hyper nulle en culture G parce que je retiens pas les mots, mais en fait j'ai toutes les émotions, mais j'ai pas le vocabulaire. Chacun a son intelligence, j'ai une intelligence émotionnelle et pas intellectuelle. Enfin, un petit peu quand même aussi, mais bon, bref, peu importe. Donc, du coup, je crois que c'est la satire, si je dis pas de bêtises. Bref, il y a des pièces de théâtre comme ça, là, hyper horribles, là. Vous voyez, les pièces de théâtre où ils se tuent, où les frères et sœurs ils font des trucs chelous, ou voilà, toutes les pièces de théâtre, là, à l'ancienne, là, où les gens, ils regardaient ça, ces pièces de théâtre, là, depuis moins, je sais pas combien. Eh ben, ce qu'il faut savoir, c'est que ce théâtre, peut-être pas depuis moins, je sais pas combien, mais je suis vraiment nulle en culture, j'ai... c'était une sorte de, comment dire, comment on avait appris ça ? les gens venaient voir ces pièces de théâtre assez dramatiques parce que d'une certaine manière, ça les rassurait dans leur propre vie. Mais on le vit aujourd'hui, je veux dire, combien de fois on va regarder les threads d'horreur, les documentaires horribles sur le serial killer, etc. D'une certaine manière, ça nous renvoie aussi au fait que notre vie est plutôt tranquille en fait. En fait, ça va quoi. Quand tu vois qu'il y a des parents qui doivent se remettre du meurtre de leur fille toute leur vie, par exemple, tu te dis, oh, mais quelle horreur, je voudrais pas vivre ça. Et d'une certaine manière, ça fait augmenter, tu vois, ton. T'as l'impression à ce moment-là de te dire en fait ça va ma vie, tu vois, en fait ça va, ça te rassure. Et ben en fait, d'une certaine manière, on a ce truc-là où quand on va voir quelqu'un qui est mal, et ben on peut être rassuré. Alors là, c'est vraiment si on n'est pas aligné dans ce que j'ai envie de dire, un peu l'amour commun, tu vois, si t'es pas aligné dans ton cœur et que toi-même t'es mal, tu te rassures un peu comme si tu te nourris, c'est horrible ce que je veux dire, mais tu te nourris du malheur de l'autre pour te rassurer que ça va. Mais on l'a tous fait, hein. Y a pas de jugement ici. On l'a tous fait de se dire, oh, en fait ça va. Moi je me plains et tout, mais en fait ça va. On a tous besoin à un moment donné de le faire. Maintenant, il y a des gens qui sont vraiment mal intentionnés et parce qu'ils sont mal hein, dans leur peau. Parce que je pense pas qu'il existe des gens méchants. Je pense qu'il existe que des gens profondément blessés. Même si parfois, je vous le dis, on a des doutes. Hein, c'est normal. Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment des attitudes de méchants, méchants. Mais bon bref. Et donc du coup, qu'est-ce que ça fait? Bah ça fait que si tu dégages quelque chose comme ça, un taux vibratoire très faible, et que tu veux pas qu'on regarde quelque chose ou qu'on remarque quelque chose, ça peut justement bah encore plus se voir et se sentir. Et du coup, ta crainte, c'est que l'autre en face le voit. Et donc tu as peur de son regard, tu as peur de son jugement, parce que tu as peur qu'il vienne mettre le doigt exactement là où toi, ça ne va pas. Voilà, je pense que ces deux gros points, on les a vus, la peur d'être rejeté par la communauté, la peur de s'affranchir du conditionnement et la peur en fait d'être face en fait à sa pire peur, son pire juge intérieur en miroir de l'autre. Donc en fait que ça vienne valider ce que je crois de moi profondément. Que ce soit physiquement ou que ce soit dans l'attitude aussi, hein. Il y a des gens, y a des fois, peut-être t'as pas envie qu'on te dise ah, mais t'es timide parce que t'es timide, tu vois ce que je veux dire? Ou t'as pas forcément envie qu'on te dise quelque chose, peut-être qu'on t'a dit toute ton enfance, par exemple, ah, bah t'es trop comme ça, t'es too much et tout, et t'as pas envie, tu te retiens dans ton attitude d'être toi-même parce que t'as peur que quelqu'un vienne mettre le doigt là-dessus et que tu te sens rejeté parce que bah, du coup, t'es persuadé que t'es trop. T'es persuadé que t'es trop et que c'est pas bien. Parce que même si t'es trop par rapport aux autres, bah, c'est ok. Sauf qu'on t'a dit non, c'est pas bien. Il faut rentrer dans des cases, il faut être ceci, il faut être cela. Et plus on nous empêche, et là je vais rentrer juste dans une petite parenthèse, plus on t'empêche d'être pleinement toi, qu'on t'accuse, qu'on te culpabilise de tes particularités. Plus ça crée un déséquilibre en toi, et pour le retrouver, ben justement, tu dois passer par tout cet affranchissement de l'autre. Moi, par exemple, on m'a toujours dit que j'étais trop sensible, que je parlais trop fort, que j'étais extravertie, que je m'emballais toujours trop vite, que j'en faisais toujours des caisses. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a toujours dit. Ok, on m'a toujours dit. Et aujourd'hui, on me le dit encore, mais c'est plus du tout dit de façon négative. Parce qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus alignée. Je me suis affranchie de tout ça. Aujourd'hui, on va me dire quoi? Oh, t'es trop sympa. Avec toi, on s'ennuie jamais. T'es assez enthousiaste, parce que j'ai travaillé beaucoup mon enthousiasme. J'en ai parlé, je sais pas si j'en ai parlé dans un podcast, mais j'ai beaucoup travaillé mon enthousiasme pour les choses. T'es sensible et c'est cool parce qu'on sait ce que tu ressens, t'es touchante. Voilà, ça s'est transformé en un truc super positif parce que moi, j'en ai fait quelque chose de positif et je n'ai plus ce besoin extrême de gueuler à tout va. J'ai plus ce besoin extrême de m'opposer, d'être peut-être des fois agressive dans l'opposition, de pleurer pour, entre guillemets, pour rien de façon extrême, même si je suis pas forcément d'accord avec le fait de. Justement, je pleure plus qu'avant, mais avec beaucoup plus de douceur et d'amour. Je pleure beaucoup de joie hein, que de peine. Et quand je pleure de peine, je l'accueille. Et vas-y, c'est ok, genre. D'où pleurer, c'est quelque chose de mal, tu vois. C'est ok de pleurer. Oui, moi, on m'a éduqué qu'il fallait pas pleurer, qu'il fallait être solide, qu'il fallait être fort. Mais en fait, moi, plus je pleure et plus je me sens solide, en fait. Parce que dès que je ressens une émotion, je la sors et en fait, je me sens vivante, vous voyez? Donc, et aussi parce que j'ai appris que j'étais hypersensible et que j'ai appris à accueillir pleinement qui je suis. Et donc, ça s'est équilibré dans mon attitude et ce que je renvoie aux autres est quelque chose d'assez positif. Alors qu'avant, j'avais mais tout le temps la peur que les gens me disent, mais elle est relou, elle est chiante, elle parle trop, elle prend trop de place, etc. Et c'est ce que les gens me disaient parce que j'en avais peur. Donc, à un moment donné, on venait mettre le doigt dessus. Après, je précise. Il y a aussi parfois des choses que nous n'aimons pas chez nous et que les autres ne vont pas forcément voir, et donc on se gâche la vie tout seul. Et c'est pas parce qu'on dégage un mal-être que les gens vont forcément mettre le doigt dessus. Il y a des personnes qui vont juste voir que ça va pas trop, ou qui vont sentir peut-être que vous n'êtes pas aligné ou pas, hein, peu importe, mais ça va pas forcément se voir. Moi, je parle avec beaucoup de personnes, hein, je communique avec beaucoup de gens. Il y a des gens, ils sont mal pour des trucs, je me dis, mais c'est une blague en fait. Ah, j'aime pas mon nez. Ah ouais, j'ai peur que les gens pensent que je suis comme ça. Ou... Oh, mais je me dis, mais on se met des nœuds dans la tête, quoi. Donc voilà, on va dire les deux grosses catégories, on pourrait encore. Voilà. Donc, dans tous les cas, ce qui revient majoritairement, c'est quand même la peur du rejet. On a peur du rejet et on a peur aussi juste de son propre rejet. En fait, on se rend compte quand on a la personne en face qui te dit, qui te renvoie à ta propre peur, au final, bah cette personne, elle est juste en effet miroir en train de te dire, bah, en fait, tu te détestes et tu te détestes tellement que ce que moi je pense, tu y crois. Et tu viens valider ma pensée qui est extérieure. C'est-à-dire que cette peur-là, en fait, c'est l'opposé de la confiance en soi. On est clairement dans l'opposé de la confiance en soi. Et donc, du coup, on est totalement dans le doute de notre valeur. On est totalement dans le doute de notre. On a carrément bafoué notre estime de nous à un très haut niveau. Et on laisse le pouvoir, il est très important cette partie, on laisse le pouvoir entre les mains de l'autre. Voilà, on laisse le pouvoir entre les mains de l'autre de nous dire ce qu'on a à faire, parce que quand on a peur du jugement de l'autre, bah après on va écouter ses conseils potentiellement, peut-être qu'on va les mettre en application, peut-être qu'on va se dire bah cette personne elle a sûrement raison, si elle a vu ça chez moi c'est que c'est vrai. Le conditionnement aussi nous empêche finalement de nous exprimer pleinement bah, qui nous sommes, que ce soit notre attitude, que ce soit nos pensées, nos croyances, même parfois notre rire, peut-être il y a des choses toute bête qu'on a pu vous dire comme ah ton rire il est horrible et donc du coup peut-être que tu t'interdis de rire à gorge déployée parce que tu as honte de ton rire. Oui, enfin ça peut être tellement de choses. Donc voilà vraiment là on a vraiment détaillé le schéma de la prison mentale. Et ensuite, partie hyper intéressante, là c'est et si je suis libre en fait de ça, ça fait quoi? Alors, je vais avant de parler de la liberté, je vais donner aussi des exemples concrets de ma vie, parce que ça, c'est la partie que vous préférez de mes podcasts, hein, quand je raconte ma life. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de messages par rapport au sport. Donc, je suis obèse. Enfin, je suis en obésité sévère, selon l'IMC. Donc, je suis en situation d'obésité. Je fais beaucoup de choses pour ma santé, vraiment. Là, on est sur des pistes médicales que je vais approfondir. J'ai rendez-vous chez le médecin dans 1 heure et demie. Pour vous dire qu'il faut que je me casse vite là. Et en fait, on m'a fait comprendre que c'était incroyable que j'aille à la salle de sport en étant obèse. Alors déjà le mot obèse, ne vous imaginez pas si vous ne connaissez pas que j'ai un ventre qui est proéminent forcément, que je mange des chips dans un canapé. Le mot obèse, les gens, ils en ont peur. C'est juste une indication au niveau médical de votre IMC. Point barre. Hein. Je suis juste grosse. Et l'obésité, moi, j'ai des gens qui m'ont déjà dit qu'ils étaient obèses à une époque, je comprenais pas. Non, c'est juste l'IMC qui atteint un stade et c'est tout. Mais soit, peu importe. Et même si j'avais un ventre qui fait 4 km, c'est pas pour autant que je peux pas aller à la salle de sport. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bref. L'obésité, je suis obèse, je vais au sport. Okay? Et en fait, il y en a qui me renvoient leur propre peur, mais ils s'en rendent pas compte. Hein. Ah, je ne sais pas comment tu fais. Moi, je ne pourrais pas. J'aurais trop peur qu'on me juge. Donc heureusement que moi je suis solide et que moi je me juge pas et que pour moi en fait bah, le sport c'est pour tout le monde, enfin le sport c'est pas que pour les gens minces, enfin qui a inventé ça? Le sport c'est pour tout le monde et au contraire il faut accueillir à bras ouverts des personnes qui vont avoir plus de difficultés de par leur poids et qui ont cet enthousiasme, cette volonté, ce courage par rapport au corps qu'ils portent, non pas par rapport à esthétique, mais par rapport au fait que, wesh, tu portes 100 kilos, tu portes 100 kilos, 120 kilos, 140 kilos, c'est dur de faire du sport, c'est dur, et on n'a pas à juger sur pourquoi on est obèse, en fait, ça regarde personne, c'est notre parcours, c'est notre chemin, tu vois. Mais heureusement que je suis solide, parce que cette personne est en train de dire que, limite, je suis pas viable, et limite, ça pourrait poser problème, mais en fait, c'est juste que c'est sa vision, en fait. elle me projette sa croyance et sa propre peur. Parce que cette personne se déteste à un point. Ça se trouve qu'elle-même juge. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui se jugent parce qu'ils sont capables de juger les autres. Tu vois ce que je veux dire? Combien de personnes sont grosses et sont grossophobes? Sont profondément dégoûtées par le gros parce qu'on leur a appris à se dégoûter eux-mêmes d'être gros et du coup, ils ont vraiment peur du gros. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que... j'ai perdu le fil. Non, oui, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, quand on me dit ça, bah moi, je suis dans une position de... un peu, t'es genre, interrogatif, tu vois. Et heureusement que j'ai confiance en moi et je m'estime. Et genre, bah ouais, mais en fait, au final, tu te mets des barrières parce que t'as juste peur qu'on te juge. Mais de quoi? Que tu vas au sport? Mais on va te juger de quoi? Et j'ai des gens qui me disent, oui, il y a des gens qui m'ont mal accueilli, qui étaient pas bienveillants. Oui, il y a des connards sur Terre. Oui, il y a des gens qui sont profondément grossophobes et qui ne veulent pas de gens gros à leur salle. Ben, n'allez pas dans leur salle. Le problème ne vient pas de vous, le problème vient d'eux. Ces gens-là n'ont rien compris à l'humanité, tout simplement. On est bienveillant avec les autres, on accueille les gens à bras ouverts, enfin, allô, quoi. D'où. Enfin, les machines sont censées supporter beaucoup de poids, enfin, non. Ça va pas. Donc, voilà, déjà pour commencer. Donc quand on me dit oui, il y a des gens qui m'ont traumatisé parce qu'ils m'ont dit ça, je comprends. Ça a sûrement dû vous renvoyer à des blessures, à des choses aussi qu'on vous a dites. Mais venez fiers de vous en fait. Avancez fiers de vous dans la vie. Parce que putain, vous êtes toujours debout en fait. Excusez-moi, mais si vous avez des maladies, si vous avez des traumatismes, qu'ils soient physiques ou psychologiques, peu importe, vous êtes debout les gars. Ou les meufs. Vous êtes debout. Vous êtes là, vous continuez. Si vous êtes vivant, c'est qu'il y a un espoir. Sinon, vous aurez mis fin à votre jour. À vos jours, pardon. Si on est ici, c'est qu'il y a toujours un espoir. Tant qu'on est vivant, c'est qu'il y a un espoir. Vous voyez ? Là, je rentre dans la partie plus philosophique, spirituelle. Et ou philosophique, mais plus spirituelle du game. Mais déjà, pour commencer. Donc, ben y a ça, cette peur-là du regard de l'autre qui va nous renvoyer à notre propre dégoût, détestation... Et voilà, alors qu'en fait, les gars, le sport, c'est pour tout le monde. Alors oui, c'est vrai. En général, je suis la seule grosse de mes entraînements. Oui, c'est vrai. Et alors, au contraire, je me dis, mais en fait, je peux grave être fière. Limite, en fait, c'est chelou ce que je vais dire, mais je vais pas dire que j'ai plus de mérite, tout le monde a du mérite. Mais je me dis, bah ouais, mais je suis toujours là. Je suis toujours là, ça fait 6 mois, j'ai pas perdu un Loki. Enfin, j'ai perdu, j'ai repris, comme je vous ai dit, c'est pour ça que je fais des examens de santé. Mais je suis là, je suis solide, je fais des trucs que j'aurais jamais fait avant dans ma vie, et c'est génial. Et je vais pas avoir honte ou peur de ce que les gens vont penser de moi. Moi, je suis fière de moi, en fait. Et si ça dérange les autres, c'est eux que ça regarde, ça ne me regarde pas. Vous voyez ? Donc, y a cette peur-là, puis il y a la peur de comment je vais me comporter. Combien de gens ? On part du sport, là, on va dans autre chose. Combien de gens ne sont pas eux-mêmes? Se donnent un genre. Moi, j'en connais dans mon entourage aussi très proche. Il y a des gens comme ça à qui j'essaye de dire « Mais moi, je sens que t'es pas toi-même. T'as tout le temps peur des autres. T'as tout le temps peur de comment les autres vont te juger, de ce qu'ils vont te dire, de comment t'affranchir. De comment te comporter. Il faut vraiment t'affranchir de ça parce que... j'en connais comme ça, ils corrigent leur faute d'orthographe dans des stories, tu sais, Instagram, genre ils mettent une story, après ils corrigent après, et, ah j'ai oublié le S et tout. Mais arrêtez, on s'en fout. Je veux dire, cette peur là d'être jugé sur l'orthographe, cette peur d'être jugé parce que t'as dit un truc, t'as fait un truc, combien de gens se prennent la tête, ne veulent pas faire par exemple, des vidéos sur les réseaux alors qu'ils aimeraient de ouf parce qu'ils ont peur qu'on les juge sur leur voix, leurs cheveux, leur corps, leur façon de penser, ce qu'ils ont à dire et tout. Ça fait tellement de la peine, au final, de se dire qu'on remet totalement le pouvoir dans les mains de l'autre, tout le temps. Et du coup, on vit une vie qui est totalement sous condition. Donc on est dans une prison avec sursis, quoi. Forever. Donc voilà, ça va être ça, ça va être aussi la façon de s'habiller. Je veux pas avoir le ventre qui est moulant, j'ai pas envie d'avoir trop court parce que voilà. Après, je sais que des fois on vit dans des endroits où malheureusement c'est très sexiste. Moi j'ai grandi en banlieue parisienne, je suis désolée hein, pour ceux qui passent par là, mais c'est hyper sexiste. Voilà, il y a des mentalités qui puent la merde. Et moi je suis partie de la région parisienne parce que ça me cassait les couilles, hein, clairement. Ça me cassait les ovaires plutôt. de me faire insulter, de me faire siffler, etc. à longueur de temps. Ici, j'ai jamais eu ce problème, j'habite dans le sud de la France. Là où je suis en tout cas, je n'ai pas ce problème. Je ne me fais jamais accoster dans la rue, c'est extrêmement rare. Après, ça dépend où. Hein, des fois, quand je vais dans le centre-ville de Montpellier, voilà, mais moi, j'habite pas Montpellier. Mais quand je suis dans le centre-ville de Montpellier, bah, il y a une autre mentalité, donc c'est relou. Mais bon, bref, soit. Le sexisme, il n'est pas du tout vaincu. Il y a beaucoup de mentalités qui sont arriérées et beaucoup de personnes qui pensent que la femme est hypersexualisée en tout temps. Et si elle veut s'hypersexualiser, elle le fait bien si elle le désire. C'est un autre sujet. Donc moi, des fois, j'ai envie de me sexualiser dans des contextes et j'ai bien le droit et j'en fais ce que j'en veux et j'en ai rien à foutre. Par exemple, j'avais fait un shooting photo l'été dernier. Trop beau shooting photo à la mer et tout, à la plage de l'Espiguette, au Haut du Roi. Incroyable shooting photo. Et il y a des photos qu'on n'a pas mises parce qu'on avait peur de la censure. Et il y a une photo qu'on avait faite où j'étais, à la base, j'étais nue. On avait juste mis une serviette autour de ma taille, de mon ventre. Et il y avait le coucher de soleil, il y avait la lune. Et cette photo, en fait, on l'a jamais publiée parce qu'on voyait quand même un petit peu mon mamelon, même s'il était dans l'ombre. Et oui, j'avais peur que le contenu soit supprimé, j'avais peur que mon compte à Instagram, qui est, bah, excusez-moi, mais mon outil de travail soit supprimé. C'est des années de travail, t'as un peu les boules si tu dois tout recommencer. Bref, donc, j'ai longuement réfléchi, et c'était pas du tout la peur de montrer mes seins, je m'en fous. C'est fou comme je m'en fous de fou, quoi. Je m'en fous, c'est-à-dire que mes parents sont sur les réseaux sociaux, mais je m'en fous. C'est-à-dire que je me suis totalement affranchie même de leur point de vue. Mes parents, pour eux, je le sais, ils écouteront pas ce podcast, c'est leur phobie que je sois grosse. Ils ont peur des gens gros. Pour eux, c'est... Comme on sait que ça entraîne des soucis de santé à long terme, en tout cas un certain niveau d'obésité, si en plus t'es sédentaire, pour eux, c'est le pire du pire. C'est leur pire phobie, quoi. Et en fait, de se dire que c'est les conséquences de bien d'autres choses et qu'on peut se battre en étant comme ça et que c'est pas un choix, c'est pas envisageable. Donc, même s'ils me soutiennent, ils me disent pas ce qu'ils en pensent par rapport à ça, mais ils doivent pas en penser moins. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je m'en fous! Ils m'ont traumatisé toute ma vie avec leur conditionnement et avec tout l'amour que je leur porte, comme plein de parents. Ils nous font flipper sur des trucs, sur des comportements, sur des façons de dire, des façons de faire, et on a beau toujours les aimer et ou leur pardonner, oui, il y a des trucs sur lesquels moi ça m'intéresse pas. Leur héritage sur l'esthétique, sur la peur de vieillir, la peur d'être gros, je ne veux pas l'avoir, ça ne m'apporte rien. Ça n'a appris chez moi qu'à me détester et à me rejeter et à vouloir plaire à l'autre. Donc j'ai emprunté un chemin opposé. Et donc on voit mes seins. Si mon père, alors moi je le sais, c'est vrai que je sais d'une certaine manière, même si je leur posais la question avant, ils me diraient, oui, ça peut nous choquer ou quoi, je m'en fous, je demande pas leur avis. Parce que pour moi, je suis désolée, mais si tu veux avoir un débat sur le féminisme et le sexisme, je vois pas en quoi mon sein est sexualisé alors que c'est un ins, quoi. Voilà. C'est les mecs qui sexualisent nos seins. Moi, quand j'ai un rapport intime, je sexualise mes seins parce que c'est une zone qui peut être érogène chez moi. Donc, je le sexualise à ce moment-là. Mais en soi, non. En soi, non, en fait. C'est juste un mamelon avec du gras. Voilà. Et vous, les mecs, vous êtes torse-poil. Et si j'ai envie, je le suis. Donc, bref. Vous voyez, ça, c'est vraiment un affranchissement de ouf. Et ça, ce qui va aider à cet affranchissement aussi. Des affranchissements, il y en a plein. Ça va être aussi dans les comportements, dire ce qu'on pense, s'opposer peut-être à certaines cultures et ou religions avec lesquelles on n'est pas en accord. Enfin, voilà, il y a plein, plein, plein de choses. Forcément, je vous donne des exemples à moi qui sont concrets. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a, en effet, comment dire, à un moment donné, où quand on est totalement noyé par la peur, c'est quoi la peur? La peur du jugement de l'autre. C'est en fait, je m'empêche de vivre pleinement une vie qui me fait kiffer parce que j'ai peur qu'on me rejette, j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur de ne pas être reconnu, j'ai peur de ne plus faire partie d'une communauté, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. On a le droit de rester dans nos peurs, mais à partir du moment où ça vous étouffe, j'ai peur de quitter mon mari parce que j'ai peur qu'on me juge, que je suis une mauvaise mère, parce qu'après je verrai pas mon enfant tout le temps. Mais ça, je l'entends souvent, ça aussi. Hein. J'ai peur qu'on me juge parce que je vais pas voir mon enfant tout le temps après le divorce. On va penser que je veux faire la fête. J'ai peur de. Et en fait, des fois, c'est aussi des choses qu'on pense nous-mêmes. Oui, des fois, il peut y avoir. Bah, moi, des fois, j'ai des réflexions de personnes autour de moi que j'aime et je ferme ma gueule, mais je me dis juste, mais la personne ne parle que d'elle, ne parle que de sa réalité. C'est pas la mienne. Et en fait, c'est à vous de mettre un barrage entre ce que vous désirez profondément et c'est avoir de la conscience de se dire, attends, 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 attends. Cette personne, elle m'a dit ça. Ça a évoqué quoi chez moi? Ouais, bah je le pense aussi de moi-même, d'accord. Mais est-ce que en le pensant de moi-même, je me fais du bien? Est-ce que je suis dans l'amour, dans la liberté là? Non. Est-ce que ça met pas le point sur quoi je dois m'affranchir? Ah ouais. Ça, j'ai peur de porter une mini-jupe parce que je crois que je vais être une pute. Mais qui m'a dit ça? Bah la société, peut-être mes parents, ma culture. Mais n'importe quoi en fait. Et puis, excusez-moi, hein, mais être une pute, c'est pas grave, non? Je sais pas c'est quoi le problème avec la prostitution, mais une femme qui a envie de vendre son corps pour faire du bien à des hommes qui ne demandent que ça et qui peut-être du coup ne vont pas faire des dingueries sur des meufs à l'arrache dans la rue, chez qui ça va contrôler des pulsions, bah elle fait ce qu'elle veut. En fait, quel est le problème? C'est encore aussi cette honte d'avoir le droit de liberté sur ce qu'on fait avec notre corps. Si tu veux monnayer ton corps, pourquoi pas? Je veux dire, on utilise bien des nanas à poil pour vendre du lait et des parfums. Bon, je veux dire, on n'est plus à ça près pour la façon de monnayer son corps. Je veux dire, c'est un peu partout, quoi. La prostitution, finalement, elle existe un peu déjà partout, quoi. Donc, bref. C'est le fait de. Tu vois, on va jamais dire à un mec, ah putain, espèce de gigolo. Bah non, parce qu'on hypersexualise pas les hommes, nous, les femmes. On n'a pas besoin de ça pour se sentir supérieur et les contrôler. Voilà, c'était une petite aparté. Donc, bref. Et donc, du coup, ça pour dire, on n'est pas dans la haine de l'homme, là, parce que ça me fait rire. Je parle avec des mecs à chaque fois, c'est oui, vous êtes des hystériques, vous détestez les hommes. Non, vous avez rien compris, on veut juste la liberté, on veut juste rentrer tranquille chez nous, on veut juste que vous nous laissiez tranquille sur comment on doit s'habiller, sur comment on doit se comporter, en fait, on fait ce qu'on veut, merci beaucoup. Mais il n'y a pas de haine, juste on veut la liberté. Mais voilà, donc du coup, c'est hyper important aussi de faire le point et d'être aussi honnête avec soi-même. C'est-à-dire que si vous êtes tout le temps dans la réaction et dans la blessure activée, donc blessure du rejet, peur de ne pas être reconnu par l'autre, etc., et que vous êtes dans cette blessure qui est activée quand quelqu'un vous dit ou vous sentez, oh, alors la phrase, moi qui me tue, c'est je sens le regard des gens. Mais vous cherchez ce regard. Excusez-moi, hein, je vais être très cachée. Vous cherchez ce regard. Si vous ne regardez pas les gens, vous ne sentirez pas le regard, vous ne le verrez pas. Moi, à la plage, cet été, j'étais seins nus, alors que je suis obèse. En plus, je vous ai dit, j'ai Putain, j'ai plus le terme. J'ai des petits vaisseaux qui ont éclaté sous les seins avec la prise de poids. Je m'en fous. Je ne suis pas un canon de beauté, je m'en carre. Je ne vois pas les gens me regarder. Parce que je ne cherche pas le regard. Toutes les fois où j'ai senti qu'on me regardait et que ça me gênait, c'est parce que je croisais le regard des gens. Et que j'ai interprété ce regard. Ok? Alors, oui, peut-être que si t'es gros de ouf, ça race, genre en mode 160 kilos, et que tu sais, t'es gros de ouf, ça race. C'est hyper grossophobe ce que je viens de dire. Mais tu vois, genre vraiment, t'es gros, genre on peut pas te louper. Bah oui, c'est vrai, il y a des gens qui sont vraiment très gros, bah je suis désolée, visuellement, on peut pas les louper. C'est comme moi, quand on voit mes fesses, je sais très bien que ça choque. J'ai des fesses, excusez-moi, mais j'ai des fesses, tu peux mettre. Franchement, deux personnes de 50 kilos derrière moi, c'est la taille de mes fesses, quoi. Et moi, je le vis bien, c'est pas grave, genre, je suis réaliste, c'est pas une insulte, quoi, d'avoir un gros cul, c'est la vie, c'est vrai, quoi. Bref. Et donc, du coup, bah, je sais que ça se voit et que ça peut surprendre. Donc, si tu vois quelqu'un qui est vraiment très gros, qui impose, tu vois, bah oui, tu vas le regarder, mais même moi, je vais le regarder. Après, ce que j'en pense, ça me regarde. Et on ne peut pas empêcher les gens de nous regarder. Après aussi, des fois, on croit que les gens passent leur temps à nous regarder. Mais parce que, en fait, bah, si on se regarde, à un moment donné, nos regards se croisent. Tu vois. Moi, à un moment donné, je me suis dit, tiens, mais je vais regarder les gens pour voir s'ils me regardent. Mais les gens ne me calculaient pas. En fait, les gens, ils s'en foutent la plupart du temps. Ils ont chacun leur propre complexe, leur propre problème. Et en fait, on se cache. C'est fou quand je vois des gens, ils vont à la plage. Ils vont pas à la plage. Il y a des gens, ils vont pas à la plage. Moi, je vis à la mer. Les gens qui me disent, je vais pas à la plage, j'ai peur du regard de l'autre. Oui, tu as peur. Que les gens, tu as peur de croiser le regard de la personne, que tu vas interpréter que la personne te juge parce que tu te détestes. Mais ça, en face, les gens s'en cognent. Et si les gens vous jugent, même vous l'entendez de leur bouche qui juge, mais ce n'est que le reflet de leur propre façon de se parler d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont capables de juger à ce niveau-là. Quelqu'un qui est bien dans sa peau n'aura jamais besoin, même s'il n'est pas bien dans sa peau, mais qui. Il est complexé, mais qu'il n'a pas besoin de descendre l'autre, ben ça veut dire qu'il est vraiment dans un élan où il essaie de sauver de l'amour malgré qu'il se déteste. Mais ceux qui se disent ne pas se détester, mais qui critiquent l'autre, mais imaginez le discours à l'intérieur d'eux, quoi. C'est très flippant. Ça ne vous appartient pas, quoi. Donc, s'affranchir du regard de l'autre, c'est pas un truc qu'on va faire en un claquement de doigts, c'est des choses qu'on fait étape par étape, et ça va aussi être un gros travail aussi sur le fait d'accepter qu'on est qui on est, que ce n'est ni bien, ni mal, qu'on est parfait tel que l'on est, que si on dérange autrui, on le dérange dans le propre discours qu'il a à l'intérieur de lui, parce que c'est aussi potentiellement un discours conditionné, mais on est libre, au final, d'être qui on est, et on n'a pas besoin, finalement, de l'approbation de l'autre pour vivre pleinement nos désirs, notre façon de nous comporter, de nous habiller, du sport, pas du sport, je dis ce que je veux, j'ai pas envie de dire, je me casse plutôt d'une soirée si j'ai envie, je m'énerve, etc. Moi, par exemple, combien de fois je me suis culpabilisée de certaines choses, alors qu'en fait, j'étais vraiment hyper alignée avec... ce que je faisais, parce que l'autre en face n'aurait jamais pu faire ce que j'ai fait, donc était choqué de mon comportement et a essayé de me faire comprendre que ça ne se faisait pas. Mais en fait, ça se fait dans mon monde et dans ma réalité, et moi je considère ne pas avoir blessé qui que ce soit, et si c'est le cas, j'en suis clairement désolée, ce n'était pas mon intention, mais je ne vais pas me plier au comportement conditionné de l'autre par souci d'être jugé ou autre. Combien de personnes m'ont dit « mais moi, j'aurais jamais osé ». Regardez bien les mots qui sont souvent évoqués. « Moi, j'aurais jamais osé ».« Moi, j'ose pas aller à la salle de sport ».« Moi, j'aurais jamais osé montrer mes seins ».« Moi, j'oserais jamais m'habiller aussi moulant ». Alors, combien de fois les phrases que j'ai sur TikTok hyper violentes hein. « Oh, j'ai le même corps que toi, je me trouve dégueulasse, mais sur toi, c'est joli ». Ah ouais, quand même hein. Faut pas être dans une mauvaise journée pour lire un truc pareil. Vous avez vu la puissance de la projection de l'autre. Donc l'autre, elle vous transporte. C'est du poison. Les gens vous envoient du poison. Et heureusement, moi, j'ai une antidote. Ça s'appelle l'amour de soi et l'estime de moi. Parce que putain... ouais. Après, attention. Hein, il y a des jours où ça peut me toucher. Des jours où je m'aime pas. Des jours où j'ai une période, la fin d'année, comme j'ai encore pris du poids. Sur les 6 derniers mois 2022... pas de ouf, mais ces derniers kilos, ils ont transformé mon visage et ils m'ont fait avoir des vergetures et tout ça sur le ventre que j'avais jamais eu. Donc ça m'a un peu, wow, ça m'a un peu surpris et je l'ai vu même dans les images et tout, sur les images de début 2022 et fin 2022, j'ai vu genre menton et tout, bref, j'ai vu vraiment mon visage qui s'est transformé. Et donc, d'une certaine manière, ouais, j'ai à un moment donné, j'ai du mal à accepter. Et c'est ok, c'est pas grave, en plus je faisais tout un chemin à l'intérieur de moi, donc j'arrêtais pas de revisiter des vieilles peurs, là, j'allais dire ancestrales, mais tu vois ce que je veux dire. Et donc s'affranchir de ce regard-là, de cette peur du jugement de l'autre, cette peur du regard jugeant hein, de l'autre, parce qu'on a peur du regard de l'autre, non, on a peur du jugement de l'autre, et de ce qu'on penserait être un jugement dans son regard. Quand on s'en affranchit, on fait des trucs de ouf. Moi, à partir du moment où j'ai posté une vidéo en juillet 2020, le lendemain de mes 30 ans, que j'ai posté une vidéo de moi en maillot de bain, alors je faisais 20 kilos de moins que maintenant, mais j'étais quand même déjà en surpoids, j'ai posté cette vidéo en maillot de bain en disant « bah voilà, j'ai 30 ans, c'est vrai, je fais tel poids, telle taille, mais j'ai aussi plein de qualités, et voilà, et c'est tout quoi, c'est tout ce qui compte ». Cette vidéo a buzzé, c'est comme ça que... Alors j'étais déjà sur les réseaux, sur des projets pro, mais j'étais pas forcément connue, et ensuite ça a explosé avec cette vidéo. En fait, je me suis affranchie en faisant cette vidéo, d'une certaine manière, un peu du regard de l'autre, même si j'étais en fin de dépression et que je devais faire un gros chemin... dans l'acceptation, dans l'amour de moi, c'était un concept. C'était un vrai concept, parce que je me suis dit, en fait, une fois que tu t'en fous, y a plein de gens qui sont là, oh, merci, ça fait du bien de voir quelqu'un qui, alors, s'assume, je déteste cette phrase, non, je la déteste, j'ai commis aucun crime, j'ai rien à assumer, mais quelqu'un qui vit pleinement en s'en foutant de ce que les autres vont dire, quoi. Et en fait, plus j'ai traversé des choses que j'ai envie de faire, même si je suis pas convaincue, parce que j'ai peur quand même du jugement de l'autre, mais je le fais quand même. Et je me dis toujours, sois fière de toi. Sois fière de te montrer en maillot de bain par rapport à toi-même, pas par rapport aux gens qui n'oseraient pas, parce que c'est une hérésie de devoir avoir honte d'un corps. Ça me fume. Un corps qui vit, un corps qui est vivant, genre on doit avoir honte d'un corps. Quoi. C'est un truc, ça me dépasse. On doit avoir honte d'avoir une vie, un vécu, mort de rire. Donc voilà, c'est aussi tout ça. Faut un peu remettre à un moment donné les choses dans le contexte. Quoi. Combien de personnes s'empêchent de vivre parce qu'ils ont peur qu'on les juge sur les kilos qu'ils ont pris, qu'on les juge sur la cicatrice qu'ils ont, sur les boutons, qu'on les juge sur j'en sais rien, tous les changements physiques ou leur comportement, qu'on les juge pour aussi peut-être leur profession, leur situation financière. Bref, cette peur d'être jugée en permanence, elle vous empêche de vivre. Et franchement, aujourd'hui, moi, j'ai une vie, et donc je peux être que le meilleur porte-parole, où je me suis affranchie de la peur d'être grosse, d'être rejetée peut-être par mes parents. Au final, bon, je ne suis pas rejetée. Je ne dis pas qu'ils sont heureux. Je pense qu'ils ont peur. Et mais ça ne sert à rien d'avoir peur parce que bah, ça n'amène pas de l'amour, ça n'amène pas de la confiance. Moi, au final, j'ai été dans un processus d'amour, même en prenant du poids. Et en fait, je me rends compte que bah, je suis dans un enthousiasme et je ne vis pas dans la haine et dans le dégoût de moi-même pour créer un changement. Et aka perte de poids, je suis plutôt dans un process d'amour et d'enthousiasme et je commence à mettre le doigt sur plein de choses et je suis super heureuse et c'est cool et c'est comme ça pour moi qu'on évolue, c'est pas en se détestant et en se rejetant parce que ça rend pas plus heureux et je me suis affranchie de cette peur là, je me suis affranchie de la peur d'être rejetée par des gens qui étaient pas alignés avec ma vibe, des gens que il y a des gens en fait j'ai pas envie de les fréquenter aussi parce que bah je suis désolée, moi je veux fréquenter des gens positifs, je veux fréquenter des gens ambitieux, et bah c'est comme ça, j'ai bien le droit de m'entourer des gens dont j'ai envie de m'entourer, des gens qui sont pique-assiettes, qui sont négatifs, qui sont tout le temps dans un état d'esprit hyper pessimiste, bah moi à terme j'ai pas envie de les fréquenter et j'ai fait partie de ces gens là avant. Et ben bah, la personne que j'étais avant, bah elle avait pas beaucoup de gens qui voulaient la fréquenter au long terme non plus. Ou alors bah, je restais avec des gens qui étaient négatifs comme moi. Ouais, ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, j'ai bien le droit de choisir qui je veux dans ma vie pro, qui je veux dans ma vie perso. Pareil, je suis hyper exigeante sur mon compagnon de vie, sur le coéquipier ou la coéquipière qui fera partie de ma vie. J'ai vraiment envie que cette personne qui rentre dans ma vie, bah j'ai des standards élevés et c'est juste qu'ils me disent "Ah, t'es trop compliqué. Ah ouais, mais ceci." Non mais non. Non, non, je suis pas trop compliquée, j'ai des standards élevés et j'ai bien le droit. Et donc là, je me libère de ce que faudrait être et faudrait dire et faudrait faire. Quand j'étais en galère financière, il y a des gens qui me disaient « reprends un travail ». Je leur dis « je travaille déjà, je suis déjà sur les réseaux, mais je gagne pas encore assez d'argent, mais je travaille ». Je me suis écoutée, j'ai été alléchée par un CDI, je l'ai pas pris, je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui, j'ai une vie de liberté. Même si je travaille beaucoup, je kiffe ce que je fais. Toutes les fois, on m'a dit de me remettre au régime et que j'ai dit non, je sais que c'est pas bon. D'avoir honte finalement du poids que je prends, de me dire perds tant de poids, fais ceci, fais cela. Combien de personnes, même des gens que j'aime et qui se reconnaîtront, qui m'ont dit oui, il faudrait que tu perdes encore 10 kilos à une époque où en fait bah, j'étais très bien comme j'étais, même si je l'avais pas fait de la bonne manière et dans tous les cas j'allais reprendre du poids, mais qui m'ont imposé leur vision de ce qui serait bien en termes de kilos, d'apparence, de poids, de machin qu'il faudrait être. C'est fini tout ça. Je vis ma vie comme je l'entends et surtout comment ça vibre en moi. J'ai bien fait de ne pas faire un énième régime, j'aurais encore plus niqué ma santé parce que là on est en train de mettre le doigt, j'ai rendez-vous chez le médecin après, justement pour en parler. On met le doigt sur des choses qui à l'intérieur de moi au niveau hormonal ne vont pas et ça me soulage de me dire que c'est pas qu'une histoire de volonté parce que quand on voit la vie que j'ai, on peut pas comprendre, vous voyez, ma situation. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique. Donc ce que je vous dis, c'est hyper hyper important, c'est que s'affranchir de la peur du jugement de l'autre, c'est finalement revivre une vie alignée. Moi aujourd'hui je suis beaucoup plus apaisée, je fais des choses qui me font kiffer, il y a des gens qui me jugent et qui me critiquent, bah écoutez, ouais, s'ils ont que ça à faire de leur vie, bah c'est tant mieux. Moi j'ai ma vie à faire et j'ai pas le temps d'aller critiquer celle des autres en fait. Je suis hyper occupée dans ma life en fait. D'ailleurs j'ai remarqué, hein, plus t'es occupée et moins t'as le temps d'aller bitcher sur les gens, vraiment. Je suis occupée à bâtir la vie qui me fait rêver, la vie que j'aime, la vie de mes rêves, je suis occupée à tout ça et du coup je suis de plus en plus alignée avec qui je suis quoi. Donc évidemment vous allez me dire mais comment on fait, bah déjà faites des choses, demandez de l'aide, suivez une thérapie, je vous le dis à chaque fois, à chaque podcast, suivez une thérapie ou des méthodes thérapeutiques. Faites le tri dans votre vie, faites le point avec vous, faites des stages, venez dans les retraites femmes puissantes, venez dans les Wonder Weekends, enfin il y en a plus, j'en fais l'année prochaine. Faites des choses pour vous en fait, prenez décision, créez du mouvement. Si vous voulez vous affranchir de certaines choses, si vous restez immobile, il n'y a pas de changements qui vont se créer. Faites des choses même en flippant. Moi quand j'ai posté la vidéo de moi en maillot de bain, j'aurais pu me manger une vague d'insultes grossophobes, ça aurait pu être le cas. Bon, j'en ai eu forcément, hein, parce que la vidéo a buzzé, donc forcément, j'ai des vidéos qui ont été hyper horribles en termes de commentaires et tout, mais dans la culpabilité de tout ce que tu veux et tout, et pour autant, je suis quand même toujours là, je veux dire, j'ai réussi justement à m'en affranchir, ça veut pas dire que ça me touchait jamais, parce que ça faisait écho des fois avec des choses que je pensais, là, je suis vraiment affranchie de toute culpabilité, quand je vois aussi mes examens de santé, où je me dis, voilà, je sais, et même si j'avais des TCA, on n'a pas à rendre coupable quelqu'un qui a des TCA, on n'a pas à lui dire, bah t'as qu'à manger mieux et faire du sport, vous voyez ce que je veux dire ? Forcément, je vous parle du corps et du poids parce que c'est le truc le plus courant des gens qui m'écoutent, mais en vrai, il y a énormément de choses qui sont bien au-delà du physique. Donc, créez du mouvement, créez de l'action, quoi. Parce que vous allez, putain, vivre une vie de ouf. Moi, aujourd'hui, j'ai une vie de ouf. Et encore, j'ai une vie de ouf. Et en fait, je me dis, ça pourrait être plus ouf encore. Vous voyez, encore des choses que j'ai dans la tête que j'aimerais faire. J'aurais envie de m'affranchir encore de beaucoup de choses. Mais il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas affranchie, mais qui me servent. Parce que je me dis, ok, par exemple, moi j'ai un besoin de stabilité qui m'empêche de redéménager. Parce que justement, je sais qu'en étant ici, ça m'a créé une stabilité, un ancrage dont j'ai besoin, au moins pour les 5-6 prochaines années, pour me permettre de créer par la suite une vie encore plus alignée. Alors, c'est sûr que c'est pas un truc de je vis au jour le jour, donc je me crée plein d'autres choses. Donc là, c'est pour ça, cette année, en début d'année, j'ai déjà prévu quasiment tous mes voyages de 2023 et même début 2024, parce que le but, c'est quoi ? Bah, le but, c'est vivre la vie qui me fait kiffer, en créant une stabilité financière, en ayant un entourage solide, en créant, voilà, j'ai ma salle de sport, je vais avoir plein d'habitudes qui vont me permettre de plus m'ancrer, parce que dans mon parcours de vie à moi, c'est par ça que je dois passer, parce que j'ai beaucoup trop déménagé, j'ai beaucoup été dans tous les sens, mais je sais qu'un jour je vais partir d'ici. Je veux dire, il y a peu de chances que je vive 40 ans dans la ville où je suis. Vous voyez, il y a un moment donné, je vais vouloir vivre dans une ville tropicale, dans un pays où il fait chaud toute l'année, où je me sentirai encore plus libre, parce que c'est mon rêve, hein, depuis toujours, de vivre au soleil en H24. Il a arrêté de neiger, là ? Ouais, c'est bon, il a arrêté de neiger. Donc, voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que aussi, acceptez votre chemin d'évolution. Vous n'allez pas vous affranchir de tout, et on n'est pas affranchi de tout, et c'est tant mieux aussi, parce que y a certaines choses qui nous permettent de dealer avec d'autres. En attendant, je ne suis pas affranchi de ça, mais c'est pas grave, pour l'instant, je travaille sur tel point, enfin, j'œuvre sur tel point, et je verrai ça après, et le fait d'avoir peur, finalement, de perdre ma stabilité, pour l'instant, c'est pas grave, parce que ça m'apporte aussi telle ou telle chose. Soyez non jugeant dans votre parcours et donnez-vous le temps. Je parle avec plein de gens qui sont pressés de tout, quoi, que ce soit dans le pro ou dans le perso, ils veulent tout de suite, ils sont pressés de tout, ils veulent pas tarder, ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien d'être pressé de tout en tout temps. Œuvrons tranquillement, voilà, œuvrons tranquillement, et ça portera ses fruits, quoi qu'il arrive. Soyez le plus investi et conscient de votre chemin pour vous libérer progressivement de la peur du jugement de l'autre. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine.